Bonsoir à tous, bienvenue dans Cop Paris, votre rendez-vous tous les lundis soirs avec le PSG sur BFM Paris, Île-de-France, Cop Paris en mode Phil Collins ce soir, puisqu'on a le plaisir d'accueillir pendant toute l'émission un ancien joueur, ancien attaquant du Paris Saint-Germain, monsieur Mevlut Erding.
Bonsoir.
Bonsoir Mevlut, grand plaisir, vraiment très très grand plaisir de t'avoir avec nous en plateau. Un immense merci d'être avec nous. Les deux chroniqueurs également, nos deux chroniqueurs sont là, Omar Altundag, journaliste sportif.
Bonsoir Julien, bonsoir Romuald, bonsoir Mevlut.
Et Romuald Bernardi, supporter du Paris Saint-Germain. Le programme, le sommet, retour tout d'abord sur la victoire parisienne face à Lens samedi soir, 1-0, 6 points d'avance au classement et un changement au poste de gardien de but qui interpelle. PSG Atlético de Madrid, J-2, match capital pour le PSG et dilemme à résoudre pour l'attaque parisienne, toujours en manque d'efficacité face à l'une des, si ce n'est la meilleure défense d'Europe. Et puis retour avec toi Mevlut sur ton PSG, celui du début des années 2010, tes plus grands souvenirs, l'arrivée de QSI, tu nous raconteras tout de ton passage au PSG, sans oublier comme tous les lundis les résultats de vos clubs franciliens. Omnisport, Cop Paris, avec Mevlut Erding, c'est parti. On se souvient tous de tes buts avec Guillaume Hoareau, du duo que tu formais avec l'ancien Avray. On en reparlera dans la troisième partie, Mevlut. Invité d'honneur ce soir de Cop Paris, merci encore. Cela fait 2 ans, je crois, que tu as raccroché les crampons après une longue et belle carrière. 92 buts en Ligue 1, on n'était pas loin des 100.
Ouais.
Qu'est-ce que tu deviens, Mevlut?
Bah, j'ai arrêté.
Ouais.
Maintenant, je suis toujours dans le foot,
ouais.
Bien sûr. J'accompagne les jeunes dans leur développement, dans le monde professionnel. Je suis toujours dans le foot, dans ce que j'aime.
Ouais.
Je vais voir les matchs, je voyage beaucoup.
Diplôme d'entraîneur, non? C'était pas le projet?
Pas pour l'instant, non.
Ok, bon. On te souhaite le meilleur dans cette nouvelle aventure et on reparlera de l'aventure parisienne en fin d'émission. On va revenir sur cette victoire, messieurs, au Parc des Princes face au Racing Club de Lens. C'était samedi soir, un seul but dans cette partie très précoce. On va le revoir dès la deuxième minute de jeu avec le centre de Barcola pour Dembélé. Alors celle-là, il pouvait pas la rater. Ousmane Dembélé, 5e but de la saison en Ligue 1 pour l'ancien du Barça, le PSG qui va se créer ensuite beaucoup d'occasions. On en reparle, mais qui s'impose 1-0, qui termine en supériorité numérique après le carton rouge pour Kusanov. Omar, Romuald, votre ressenti sur cette victoire parisienne, au-delà du manque d'efficacité, Omar?
Pas une victoire nécessaire d'un point de vue comptable, parce que quelque part, on assomme la Ligue 1, et c'est important, puisque le championnat, c'est le pain quotidien. Il ne faut pas laisser de points en route. Après, honnêtement, dans le contenu, on ne peut pas se satisfaire de ce qu'on a vu samedi. Un match qui doit être à 3-0 à la mi-temps, tu finis à 10 contre 11 en supériorité numérique et tu finis dans tes 20 mètres à la 95e.
Ouais.
Franchement, c'est pas tolérable.
Je me déconnecte du manque de réalisme et d'efficacité. Est-ce que tu n'as pas la sensation quand même que cette équipe est, j'ai envie de dire, plus une équipe et maîtrise, ne lève pas le pied?
Bah,
ne lève plus le pied.
Moi, déjà, ce que je vois, c'est qu'on prend les 3 points.
Ouais.
Le match, il est fait. Ils ont assuré les 90 minutes. Ils ont fait le job. Ouais. On est en transition, on le sait, c'est un projet de transition. Après, je trouve que c'est une équipe qui fait ses matchs sur 90 minutes. Oui, il y a de la frustration parce que, comme dit Omar, logiquement, il doit être plié beaucoup plus tôt le match.
Ouais.
Mais au final, moi, je serais un peu moins dur que lui dans l'analyse.
Mais Mevlut, on entend souvent, et Vitinha le disait chez nos confrères d'RMC il y a quelques jours, que ce PSG est plus fort que celui de la saison dernière. Est-ce que c'est ton avis?
C'est mon avis, en championnat en tout cas. C'est ce qu'il montre. Aujourd'hui, en championnat, quand j'ai vu la victoire à Marseille, alors que je pensais que ça allait être équilibré... Il marche sur la Ligue 1 aujourd'hui.
C'est un PSG meilleur, plus flamboyant peut-être non, mais plus collectif.
Bah, moi, honnêtement, là pour le coup, on va parler purement statistiques. Mmh. C'est clair qu'ils sont peut-être moins beaux à avoir joué, mais si tu regardes les stats individuelles à tous les niveaux, ils ont des meilleures statistiques que sur les dernières années,
ouais.
À tous les niveaux.
De toute manière, la marge qu'on a vis-à-vis de toutes les autres équipes de Ligue 1, elle est énorme. On n'a pas de concurrent direct aujourd'hui. Ni Monaco, ni Marseille.
On va regarder le classement de la Ligue 1 pour s'apercevoir effectivement que le PSG a fait un petit trou ou un grand écart, à vous de me dire. 6 points d'avance désormais sur l'OM et Monaco qui a perdu, grosse surprise contre Angers. Est-ce que le PSG a déjà plié le championnat, messieurs? Mevlut.
Bah, c'est pratiquement comme chaque année. Hein.
Ouais.
Ouais. Après, ça va être le problème, ce sera la Ligue des Champions, bien sûr.
Ouais.
Mais là, pour le championnat, ils sont favoris.
Mais Luis Enrique disait samedi soir, après le match, un petit peu revanchard. On entendait depuis le début de saison que le PSG était moins fort, allait être concurrencé. Finalement, on a remis un petit peu les choses au point.
C'est bien de remettre l'église au centre du village. Je pense que c'est important parce que il faut savoir. C'est aussi respecter les autres équipes que de savoir assommer la concurrence, quoi.
PSG champion, c'est écrit d'avance.
Ah bah, si on n'arrive pas à sortir en Ligue des Champions, c'est sûr et certain que le championnat, il est plié. Hein.
Et puis surtout, il y a un élément, c'est que nous, là, dans le calendrier, on a joué pas mal de grosses équipes qu'on a toutes battues.
Ouais.
Là, jusqu'au mi-décembre, on va jouer que des équipes qui vont jouer la relégation. alors que nos adversaires directs, entre guillemets, pour le titre, vont avoir des gros matchs, donc vont aussi laisser filer des points. À partir de là, je vois pas comment le titre de champion peut nous échapper.
PSG Lens, on poursuit le débrief. Le principal enseignement nous est peut-être venu de la feuille de match quand elle nous a été dévoilée. On a découvert que Matvei Safonov était titulaire au détriment d'un Donnarumma. C'est la première fois qu'il n'était pas blessé. Pourquoi Safonov contre Lens? On écoute Luis Enrique.
J'ai choisi Safonov car j'étais conscient de la difficulté qu'allait nous imposer Lens avec son pressing. C'est un pressing très haut où le seul joueur libre est le gardien de but. Mais c'est aussi car j'ai une obsession totale, celle de faire participer tous mes joueurs à la rotation de l'équipe.
Bon, c'est difficile à déchiffrer tout ça parce qu'il dit un peu tout et son contraire. Non, mais il y a quand même un changement de cap s'il change de gardien en fonction de l'adversaire, Romuald.
Bah, je pense juste qu'il a fait le choix effectivement de changer de gardien parce qu'il faut le mettre en concurrence parce que Donnarumma en ce moment c'est vraiment pas l'assurance tout risque. Et voilà, là il nous sert sa soupe tiède histoire de passer bien dans les médias. Mais enfin, moi j'y crois pas du tout.
Je sais pas s'il y a pas un petit péché d'orgueil. Alors je suis pas à sa place, mais est-ce qu'il s'est pas dit on joue Lens? Bon, c'est une équipe qui venait de perdre en plus le derby face à Lille. Ils n'auront peut-être pas d'occasion que ça. Donc peut-être que mettre Safonov à la place de Donnarumma, je ne sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais...
C'est un simple turnover, selon vous, il n'y a pas de changement de philosophie. Quand on dit « je mets ce gardien-là parce que je savais que Lens allait presser très haut »,
pour moi,
c'est qu'on s'adapte.
Le turnover n'a pas lieu d'être Donnarumma est numéro 1 et je pense qu'il a beaucoup de marge sur Safonov. Il peut dormir sur ses deux oreilles.
Alors on va reparler de Safonov, juste, mais vous, ton expérience. Toi, tu as connu une situation de concurrence au PSG entre deux gardiens, à Poulaedel et Grégory Coupé. Est-ce que c'est quelque chose de salutaire, la concurrence entre les gardiens, ou c'est dangereux?
Non, je pense que c'est salutaire, je pense que c'est bien pour l'équipe. Et nous, la concurrence qu'il y a eu entre Grégory Coupé et Poulaedel était vraiment saine.
Ouais.
À un moment donné, Grégory Coupé, bah, il jouait, il était moins performant. Il est allé voir le coach, il lui a dit...
C'est de lui-même que c'était
vu. Ah oui, je me souviens de ça, moi. Ouais. Je me souviens que... C'est parce qu'il méritait de jouer, donc c'était passé comme ça, c'est vrai.
Juste un petit mot quand même sur le match de Safonov. Pas grand-chose à faire, deux arrêts seulement. Le jeu au pied, il a quand même touché 50 ballons. Il y a eu des relances ratées, je crois qu'il y a 12 ballons, 12 relances non assurées. Mais il touche deux fois plus de ballons que Donnarumma au pied. Ça vous interpelle pas?
Moi, je suis pas convaincu par ce gardien-là. Après, honnêtement, je comprends que Luis Enrique veuille le mettre. Mais il respire pas la sérénité, quoi. Et c'est pas une bonne chose.
C'est super dur à analyser, d'autant plus que si tu dois faire jouer un gardien au pied, il faut mettre Tenas, quoi.
Oui, c'est sûr.
D'autant plus quand t'as Tenas derrière, c'est vrai.
Ouais, exactement. Après, pour être honnête, moi, j'ai vraiment, depuis Arsenal, Donnarumma, là, j'avoue, j'ai un peu du mal.
Il est un petit peu dans le nez.
Ah ouais, un petit peu. Je t'avoue qu'il m'a vraiment fait mal au cœur.
Non, mais la question qui tue, pas selon Luis Enrique, selon Romuald Bernardi, Didio Donnarumma ou Matvei Safonov mercredi contre l'Atlético?
Bah, Safonov.
Safonov, mais selon Luis Enrique, ça sera Donnarumma. Si je t'écoute, parce que c'est un peu un coup de bluff qu'il nous fait.
Je sais pas, parce que pour le coup, moi, je le vois comme je te pique à l'ego. En fait, j'essaye un petit peu de te faire réagir par rapport aux dernières prestations que tu as fournies. Il serait capable de mettre Safonov sur la feuille de match.
Mais Vlout, changement de cap avec Safonov ou tu fais confiance à Donnarumma?
Moi, je fais confiance à Donnarumma. Ouais. Après, c'est vrai qu'il nous a beaucoup déçus, parce que ça se répète tout le temps. Hein.
Dans les grands matchs,
Mais et puis, c'est une équipe Paris qui joue au pied. Donc, après, bon, il va progresser, il a une marge de progression. Je sais pas jusqu'à quand.
Ouais. Omar, juste ton avis sur le match de mercredi?
Bah, écoute, moi, si tu me demandes pour le poste de gardien, je mets Donnarumma. Après, on sait pas. En fait, on sait pas, parce que moi, le seul truc qui me donne un petit doute, c'est est-ce que Donnarumma est éventuellement blessé? Mais ça, je ne sais pas.
A priori, non, il a dit non. Moi, ce qui me donne un petit doute, c'est de voir un Safonov qui, visiblement, rentre mieux dans le système, dans le plan de jeu, dans le cadre, dans la philosophie de Luis Enrique. Et quand il a un joueur qui lui convient mieux, qui lui convient plus, il n'hésite pas à dégager l'autre.
Ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, il paraît quand même déjà un peu plus sûr avec son pied.
Ouais.
Quand tu le vois, il aurait fait des mauvaises relances, mais de manière générale, il est quand même beaucoup plus sûr avec son pied.
Il joue plus haut, un petit peu à la manière d'un libéro. Le résultat du sondage, juste pour prendre un petit peu l'avis populaire, on vous a demandé sur le hashtag Cop Paris si Safonov devait être titulaire mercredi. Et ben, il y a un vrai débat quand même, parce que c'est non, mais seulement à 52%. Et ben, Donnarumma, voilà. Peut-être du souci à se faire, on verra dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Un binôme qui, lui, n'a pas trop de questions à se poser quant à sa titularisation mercredi, c'est notre top de ce PSG Lens. Alors pas un, mais on a voulu associer les deux joueurs, la charnière centrale, Pacho, Marquinhos. Ça, Mevlut, c'est un vrai motif de satisfaction depuis le début de saison. C'est de là.
Ouais, vraiment, ouais. Franchement, moi, je les ai vus jouer, c'est solide. Il y a de l'expérience, il y a tout. Pour un attaquant, c'est difficile, quoi.
C'est ce que j'allais te demander.
Quoi, une paire de
t'es attaquant, tu te coltines ces deux-là tout un match, c'est compliqué.
C'est dur, parce que ça se voit qu'ils jouent ensemble.
Ouais. Et pourtant, ça fait pas longtemps qu'ils jouent ensemble.
Non, et surtout, moi, la bonne surprise, elle vient du côté de Pacho. Je pense notamment au classique où il a mis Eli Wahi dans sa poche. Et surtout aussi, alors on a pu lui reprocher, parce que c'est vrai que sur cette action-là, il peut prendre rouge, mais Marquinhos, j'ai trouvé qu'il a fait preuve de caractère et j'ai trouvé ça intéressant, d'autant plus parce qu'il
est capitaine. Sur le rouge d'Hakimi, tu veux dire.
Oui, voilà, exactement. Sur l'action où Hakimi, en fait, reste blessé, lui derrière va mettre un tampon à un lançois. J'ai trouvé ça intéressant. Enfin, ça aurait pu lui valoir un rouge, mais au moins, il a fait preuve de caractère.
Il y avait quand même un petit peu de flottement dans cette charnière, notamment l'année dernière, où on avait vu Danilo, Lucas Hernandez, Beraldo. Là, on a la sensation qu'il l'a trouvé et que c'est complémentaire. J'ai même envie de dire, bon, c'est mon sentiment, mais que Pacho rend meilleur Marquinhos. Marquinhos doit certainement permettre à Pacho de progresser également.
Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Déjà, c'est vrai qu'il y a quelques semaines, je n'aurais pas dit ça, mais pour moi, c'est la meilleure recrue du Paris Saint-Germain à date.
Encore mieux que Joao Neves.
Ouais, parce que vraiment, pour le coup, Neves, c'est joyeux Neves cette année.
Neves, on le savait, quand on recrute du Benfica, on le prend pour ça.
Ouais, là, c'était un peu, on ne savait pas à quoi s'attendre.
C'était une pièce manquante au puzzle Luis Enrique. Déjà, de trouver le binôme et d'avoir un joueur qui correspond vraiment, encore une fois, de plus au cadre.
Ouais, et surtout, comme tu l'as si bien dit, je trouve qu'il a redonné cette grinta qu'avait perdu Marquinhos. Ouais, on retrouve un peu le capitaine.
On retrouve un binôme complémentaire.
Voilà, c'est une émulation positive, tout comme Thiago Silva était bon pour Marquinhos à l'époque, parce que Marquinhos a traversé les époques. Non, c'est bien et je pense que le PSG a besoin de ça. De toute manière, les performances du PSG passeront par une grande charnière défensive.
Bon, les amis, petite coupure pub. On se retrouve dans quelques instants, toujours avec Mevlut Erding, pour parler de l'Atlético de Madrid et de l'efficacité offensive du PSG. Il va en falloir face au Colchonero. Ça, tout de suite. Retour dans Cop Paris, et ça y est, on est passé en mode Ligue des Champions. Notre invité d'honneur ce soir, monsieur Mevlut Erding, ancien attaquant du PSG, mes deux chroniqueurs, Romuald Berlardi et Omar Altundag. On va se projeter, les amis, sur ce rendez-vous, je pense qu'on peut le dire, capital mercredi soir en Ligue des Champions face à l'Atlético. Quatrième journée de cette phase de poule unique, on va voir le classement où il faut terminer, rappelons-le, dans les 8 premiers pour aller directement en 8e de finale. Le PSG est actuellement 19e, ça fait mal, à 3 points de cette fameuse 8e place. Omar, est-ce que c'est déjà la dernière chance pour le PSG d'atteindre le top 8?
C'est-à-dire le top 8? Ah bah très certainement, ouais. On a clairement affaire à un match à 6 points. Moi je m'étais déjà projeté sur le top 24, si tu veux tout savoir. Après oui, il va falloir prendre des points. Et le plus malheureux, la malchance qu'on a nous, c'est qu'au niveau du calendrier, on tombe face à des équipes qui n'ont pas fait le plein. Ouais. Donc l'Atlético va venir au parc chercher des points. On va se déplacer au Bayern qui a besoin de points. Et à la limite, il nous restera Salzbourg, ça devrait bien se passer. Et City, bon après...
Bayern, Salzbourg, Stuttgart et City, comme vient de le dire Omar, si tu perds l'Atlético, c'est quasiment terminé pour le top 8. Faut gagner les 4 derniers, sinon.
Déjà, je trouve ça assez optimiste de parler du top 8.
Ouais, moi, c'est pas l'optique du top 8.
Vu le tirage qu'on prend cette année, honnêtement, parce que c'est vraiment horrible ce qu'on a pris comme tirage, je me dis si déjà, on fait les 16e et on reconstruit après comme une compétition classique, moi, je serais content. Mais là, effectivement, quand on cherne... Parce que même Stuttgart, attention, il va falloir aller les jouer.
T'as vu le match ajouté au Real, c'est pas n'importe quoi.
Non.
Mais Blut, PSG, Atlético Madrid, ça sera certainement une opposition de style entre le football de possession de Luis Enrique, celui un petit peu plus défensif de Diego Simeone. T'es plutôt de quelle école, toi, Luis Enrique ou Diego Simeone?
Bah moi, je suis un contre-attaquant. Ouais. Donc, Diego Simeone.
Diego Simeone, tu te serais bien vu dans une équipe de Diego Simeone.
Ouais, dans les contres, tout ça.
Un peu à la Diego Costa.
Ouais, c'est clair, voilà. Donc, ouais. Bah, bon, c'est à Paris quand même le match. Ouais. Donc, on a besoin des 3 points. Ouais. Je pense qu'il va tout faire pour. Voilà, on va gagner, je pense.
Bon, il va falloir retrouver du réalisme aussi face à cette défense de fer. Le PSG va devoir être un petit peu plus efficace, Omar. Tu t'en plaignais, on s'en plaint un petit peu tous de cette efficacité en berne. On va juste revoir quelques images de samedi. Ils s'y sont un petit peu tous mis après le but de Dembélé, Fabian Ruiz, Asensio, Barcola. Est-ce que le PSG, est-ce que c'est un frein, on va dire? Est-ce que c'est rédhibitoire en Ligue des Champions?
Bah oui, parce que la Ligue des Champions, c'est une compétition qui te sanctionne en fait. Ouais. Donc soit t'es bon sur tes temps forts, soit tu vas manger derrière. Et au bout d'un moment, tu vois, tous les ratés qu'on a pu vivre samedi et aussi contre le PSV, c'est des ratés qui puent le manque de confiance. Et ça, c'est très gênant en fait. Parce que je suis convaincu que dans un match que tu mènes 2-0 ou 3-0, t'as les mêmes occasions, elles vont au fond. Et c'est souvent des questions de dynamique et d'équilibre d'équipe.
Romuald,
pour moi, il y a deux facteurs. Le premier, c'est est-ce que notre ami Ousmane va être aux vendanges ou pas? Ouais. Parce que lui, il a quand même l'habitude d'en louper beaucoup. Et ce qui me fait un petit peu peur aussi, c'est autant Barcola, je le trouve très bon, mais tu sais, l'Atlético, c'est quand même très agressif comme jeu. Ouais. Et j'ai peur qu'il se fasse vraiment manger parce que tu vois que dès qu'il se fait un peu bouger à l'épaule, souvent, il va pas au combat, il se fait mettre de côté. Et c'est ça qui me fait très peur.
Mais Vlout, est-ce que le PSG, ce PSG-là, aurait besoin, selon toi, d'un vrai numéro 9 ou tu fais confiance à Luis Enrique, tu attends le retour de Gonçalo Ramos?
Bah, je pense que voilà, on savait pas que Ramos allait se blesser. Mm-hmm. Donc le PSG a besoin d'un 9, hein, quand tu regardes bien.
Ouais.
Moi, ça manque quand je regarde le PSG. Mmh. Je sens qu'il manque un atout, il manque une puissance devant. On le sent, quoi.
Ouais, c'est clair.
Tu veux pas revenir sur chausser les crampons?
J'aimerais bien, moi.
Une petite pige.
Une pige, d'après.
Je vais en dire tout de suite, là.
On va écouter Désiré Doué, lui, qui rentre en fin de match, qui a aussi eu ses occasions et qui nous confie que ce manque de réalisme, c'est quand même un sujet dans le vestiaire.
Oui, bien sûr, on en parle. À la mi-temps, on en a parlé aussi. Il y a des occasions où on doit être plus juste, mais ça fait partie du football. Des fois, on va en mettre beaucoup plus. Des fois, on va en mettre qu'un seul. Mais tant que ça nous permet de gagner, si on doit gagner à chaque fois 1-0 et gagner le championnat, la Ligue des Champions, c'est super.
Bon, on en parle, mais si on gagne tout 1-0, ça va aller. Je voudrais qu'on regarde aussi des statistiques offensives du PSG cette saison. Le PSG moins efficace, c'est pas forcément ce que disent les chiffres. Sur les 13 derniers buts la saison dernière, le PSG avait marqué 2 buts de moins et s'est montré entre guillemets plus réaliste parce que les expected goals, l'écart est moins fort, on va dire, et plus à l'avantage du Paris Saint-Germain cette saison. Est-ce que c'est pas le départ de Kylian Mbappé qui focalise tout en fait dans ce débat-là, Mevlut?
C'est clair, ça change tout. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a une très belle équipe collective. Enfin, franchement, parce qu'on ne savait pas, on se posait la question. Mais
44 buts la saison dernière, mais vous, Mbappé.
Non, mais là, quand on regarde les statistiques, l'équipe est très bien.
Ouais, l'équipe marque
en
plus.
En championnat, je parle.
Ouais. Se repose aussi beaucoup sur Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. On s'aperçoit aussi que Kylian Mbappé, l'année dernière, même stade de la compétition, avait mis 12 buts, soit un de moins que le tandem Dembélé-Barcola. Est-ce que le PSG est devenu complètement dépendant de ce duo-là désormais, mais un duo sur courant alternatif?
Moi, je crois pas. Évidemment, c'est eux qui vont lider un petit peu l'attaque parisienne, mais en même temps, je pense que, tu vois, quand on voit Neves marquer à Marseille, quand on sait que Vitinha peut marquer, j'aimerais te dire Fabian Ruiz, mais je n'y crois plus.
Parfois Asensio même.
Ouais, Asensio, Kanginli aussi. Ouais, mais voilà. Donc, tu as quand même beaucoup plus d'options que tu n'en avais avec Mbappé, où on avait vraiment cette Mbappé dépendance, qui finalement, c'est toujours lui qui cloquait. Et les fois où il était pas là, c'est-à-dire dans les grands matchs, on marquait pas.
Il n'y a pas de dépendance, selon toi, à ce duo?
Non, je pense pas. C'est une des forces de ce collectif, justement, pour reprendre ce que disait Romuald, c'est que quelque part, tout le monde peut marquer. Donc, ça va être une des grandes forces de ce PSG de Luis Enrique.
Comment on fait pour travailler le réalisme, l'efficacité devant le but, Mevlut?
C'est une question de confiance, en fait. Ouais. C'est une question de travailler à l'entraînement, répéter les gestes.
Faire du rab après les séances.
Être persévérant, en fait, parce qu'on sait que ça paye toujours. Mais quand tu es dans un club Paris aujourd'hui, c'est sûr que la confiance, si tu l'as pas...
Il y a le facteur pression en plus. Ouais.
Il n'y a pas tellement le temps. On joue tous les trois jours. Donc, tu vois, les entraînements, c'est les matchs directs.
Ça va trop vite.
Le meilleur exemple, c'est Colomouani. Hein.
Bah, c'est ça.
Colomouani avec l'équipe de France, il met but sur but.
Exactement.
C'est le meilleur exemple. Il a besoin d'un attaquant rapide. Et là, moi, je me suis dit, pourquoi il ne rentre pas? Il aurait fait du bien. Et bon,
c'est quoi la marge de progression selon toi? Alors, ils n'ont pas le même âge. Ils ne sont pas au même moment de leur carrière. De Bradley Barcola et Ousmane Dembélé dans l'efficacité. Il y en a un dont on se dit, Bradley Barcola, il peut empiler les buts. Ousmane Dembélé, on ne sait jamais.
Bah c'est ça le truc, en fait, c'est ce qui fait son charme. En fait, il est imprévisible, on ne sait pas.
Ouais.
On ne sait pas, on sait que Dembélé va jouer. On ne sait pas s'il va marquer, mais si il marque, ça ne nous surprend pas en fait. Ouais. C'est un joueur, c'est magique hein, quand même. Je ne sais pas.
Un petit mot les amis de l'Atlético Madrid. Alors bon, qui n'est pas quand même qu'une machine à défendre. Il y a quand même de sacrés joueurs du côté de l'Atlético. Antoine Griezmann, Julian Alvarez, puis tous les Argentins au milieu de terrain notamment. Les images de la victoire 2-0 face à Las Palmas hier avec un but de Giuliano Simeone, c'est le fiston, c'est l'autre, et d'Alexander Sorlot. L'Atlético est troisième de Liga, s'est rassuré après une séquence un petit peu compliquée ces dernières semaines. Est-ce qu'il y a des joueurs, je viens d'en citer quelques-uns, Romuald, Omar, qui vous inquiètent particulièrement dans cette équipe?
Griezmann forcément, et puis moi je vais parler de Sorlot, que j'avais un peu suivi quand il était en Turquie à Trabzon.
Ouais.
C'est vraiment un bon attaquant.
Très grosse saison à Villarreal l'an dernier.
Et il va pas falloir lui laisser trop d'occasions, parce que je pense que contrairement à nous, eux ils seront réalistes.
Romuald?
Bon, moi, Griezmann, évidemment, parce que pour moi, c'est le maître à jouer. Alvarez, parce que pour le coup, c'est un super attaquant.
Ouais.
Et Correa aussi, que j'aime beaucoup. Ouais. Il sera certainement remplaçant, parce qu'il n'est pas souvent titulaire cette année. Mais sur le terrain, il fait très peur. Et Sorlot, je ne sais pas, parce que pour le coup, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, le dernier match où je l'ai vu jouer, le mec a fait
il a vendangé toutes les occasions.
Ouais, mais justement, là, ça va être la Ligue des Champions, les gros matchs.
Ça pèse, hein, sur l'autre, sur une défense. Hein.
T'inquiète pas, c'est sûr.
C'est... Voilà. Comment vous le voyez, ce match, globalement? Parce que c'est vrai qu'on a la sensation que ça va être un attaque-défense. C'est aussi un match où il va falloir, Mevlut, savoir tenir ses nerfs face à l'Atlético.
Exactement. Pour avoir joué contre Sorloth lors de Trabzonspor Fenerbahçe, j'étais impressionné. On a perdu 2-0, il a mis le doublé. Et puis s'il est dans un bon jour, et ben, c'est dangereux pour nous. Hein.
Ça sera un match très engagé aussi, Omar, parce que l'Atlético, tu le disais, n'a pas fait le plein et de manière assez étonnante, a pris deux cartons en Ligue des Champions, 4-0 face au Benfica et 3-1 face à Lille il y a quelques semaines.
Ouais, ils se doivent de réagir, de nous prouver que le cholismo n'est pas mort.
Ouais.
Alors j'espère que s'ils pouvaient décéder un peu sur la pelouse du parc, ça m'arrangerait. Après, c'est la Ligue des Champions, hein, c'est les grands matchs et on sait qu'ils seront là quoi qu'il arrive.
Moi, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais ce que je me dis, c'est qu'on a quand même deux flèches sur les côtés et qu'à tout moment, ça vire au carton rouge, quoi.
Oui.
Parce que les mecs,
mais
c'est
quand
même
côté
de l'Atlético, parce qu'elles sont quand même bien bouchées. Hein,
ou alors, on énerve un peu Rodrigo de
Paul. Les Molina, pardon, de Paul.
On énerve un peu Rodrigo de Paul. Voilà, on parle mal de Messi, ça va très bien se passer.
C'est ça. C'est vrai. Non, mais il y a un facteur. Ils ont cette agressivité, mais qui est pas bien maîtrisée. Et je pense qu'à tout moment.
Ouais, c'est vrai que sur les cartons rouges depuis le début de saison, je crois pas qu'il y en ait eu du côté du Paris Saint-Germain, c'est plutôt les adversaires
sur les deux derniers matchs. Pas qu'on en ait pris cette année.
L'Olympique de Marseille. C'est une équipe qui sait plutôt bien contrôler, maîtriser, garder. Petit pronostic, les amis, pour ce PSG Atlético de Madrid, mercredi soir au Parc des Princes.
Un partout.
Oh là, c'est pas bon ça, un partout. Rommel.
3-1.
Pour le Paris Saint-Germain.
3-1 pour Paris.
Mevlut.
2-1 pour Paris.
2-1 pour Paris. Bon, on va plutôt rester côté droit avec Romuald et Mevlut. Réponse dans 48 heures avec ce PSG Atlético Madrid sous haute tension. Petite respiration et on va se retrouver avec toi, Mevlut, pour évoquer le PSG d'il y a une quinzaine d'années. Ton PSG, tes souvenirs, tes plus beaux moments avec le maillot parisien. C'est dans quelques instants. De retour dans Cop Paris avec mes deux chroniqueurs du soir, Omar Altundag et Romuald Bernardi, et notre invité très spécial ce soir, monsieur Mevlut Erding, ancien attaquant du PSG. On va profiter de ta présence, Mevlut, pour revenir sur ton époque, sur ton histoire avec le PSG, plein d'anecdotes et de beaux moments que tu vas nous raconter, que tu as vécu sous le maillot parisien. Alors pour rappel, tu as passé deux saisons et demie, le et demie a son importance, on y reviendra tout à l'heure. Tu finis meilleur buteur du club, 19 buts dès ta première saison, Coupe de France remportée en 2010. Je voudrais quand même revenir au point de départ, ton arrivée en provenance de Sochaux, ton club formateur en 2009. Je crois que pas mal de clubs étaient sur toi à l'époque, mais toi tu choisis le PSG. C'était le PSG et rien d'autre.
Ouais, c'était ça. C'était ça.
M'explique-nous.
Bah, c'est simple, j'ai grandi avec Jérémy Ménez.
À Sochaux.
On va dire avec Jérémy et d'autres amis, bien sûr, mais qui étaient sûrement. Génération 87. Et puis quand je suis au centre de formation à Sochaux. Moi, je ne supporte pas trop d'équipe en France à la base, parce que les Turcs ont su beaucoup le foot en Turquie, d'origine turque, je parle. Hein. Et puis, je vois sa passion pour le PSG, puis les week-ends, des fois.
C'est Jérémy Ménez, c'est une info qui t'a amené au Paris Saint-Germain.
Exactement.
C'est un rêve de gosse de signer au PSG.
Oui, c'est un rêve de gosse, franchement. Ouais. Parce qu'après, je grandis avec quoi? Avec Ronaldinho, avec Anelka.
Ouais.
Je regarde tous les matchs au parc.
Maintenant.
Donc tu t'imagines quand t'es gamin et puis tu te dis je rêve de jouer au PSG, puis tu te retrouves avec Jérémy Ménez 10 ans après.
C'était quoi les clubs qui étaient sur toi à l'époque? Il y a prescription.
Il y avait l'Olympique Lyonnais.
Ouais.
Et puis il y avait Marseille.
Jean-Michel Aulas qui avait essayé de te dévier du PSG.
Ouais, c'était la belle époque. Ouais. Ouais.
Et donc le PSG en 2009, t'as inscrit 30 buts, Mevlut, avec le PSG. Et alors pour ça, je l'ai lu au détour d'une interview. Pareil, tu te rappelles de tous les buts que t'as inscrit avec le PSG.
Ouais.
C'est vrai?
Ouais, vraiment tout.
Allez, raconte.
Non. Pour un petit moment.
Le premier face au Mans au parc avec ce que tu fais sur Cyriac Louvion. Tu lui fais tout et but derrière.
C'est mon plus beau but de ma carrière.
Le premier était le plus beau.
Ouais.
Ah ouais.
Il y a tout
et
dans
ça, le but. Ça te lance forcément ta carrière, le premier but au Parc des Princes. Il se passe quelque chose ce jour-là.
Il se passe un truc de fou.
Ça fait quoi de marquer au parc?
En fait, ça fait quoi? Sur le moment, une montée d'adrénaline. Pendant 10 secondes, t'entends plus rien. Et puis au bout d'un moment, tout retombe.
Est-ce que tu l'entends le parc déjà quand t'es sur le.
Quand je suis en train de dribbler, j'entends que ça monte crescendo, en fait, les supporters, le bruit. Et puis ensuite, sur le but, ça fait un blanc, quoi. J'entends plus rien.
Ouais.
Ça fait ça, en fait. C'est une montée d'adrénaline, hein, c'est ça.
Est-ce qu'il y a un but dont tu te souviens ou dont tu te souviendras plus que les autres avec le Paris Saint-Germain? Bon, celui-là, mis à part. Le plus important, celui le plus symbolique.
Pour mon premier but en Ligue 1.
Ouais.
Ah, mais j'ai toujours des petites anecdotes comme ça, parce que mon premier but en Ligue 1 avec Sochaux, c'est mon premier match avec Sochaux. Je rentre à la 88e minute. et je marque sur mon premier ballon à la 93e minute. Et on gagne 1-0 à Ajaccio.
Ça lance aussi une carrière. Voilà. Avec le Paris Saint-Germain, le but le plus important, le plus symbolique.
Alors le plus symbolique, il est à Toulouse. En fait, c'est un samedi soir à Toulouse. On va se déplacer le vendredi. Et puis moi, j'ai donné mon accord pour signer à Rennes le lundi.
Ouais.
Donc après l'entraînement, en tant qu'Emboiré, il m'inscrit sur la liste des convoqués. Mais moi, comme je sais que je vais à Rennes, donc je ne vais pas avec eux, je ne monte pas dans le bus avec eux, je rentre chez moi.
Ouais.
Donc pour ne pas jouer, parce que je vais à Rennes deux jours après.
Je dois signer à Rennes.
Voilà, je dois signer à Rennes. Et puis il y a Léonard qui m'appelle et qui sont dans l'avion. Il me dit, tu dois venir, le coach t'a convoqué. Même si tu vas à Rennes lundi, tu viens quand même avec nous jouer ton dernier match. Donc je prends ma voiture et puis au bout d'une heure, une heure de retard, je monte dans l'avion. Et puis le lendemain, je pense qu'en tant qu'Emboiré, juste pour peut-être que je marque ou peut-être que je joue mes dernières minutes, me faire rentrer en jeu à 5 minutes de la fin, je crois.
Ouais.
Et je fais une passe décisive à Jérémy Ménez.
On marque Ménez,
le but de 2-1. Ouais. Et je marque le troisième but, 3-1, but de passe de Pastore. Et on gagne 3-1. Et puis ensuite, je rentre au vestiaire. Et puis Leonardo qui me dit, tu vas nulle part.
Ouais, on en reparlera de ça parce que tu as connu cette période charnière avec le PSG QSI. Omar, quelle image vous avez, vous conservez de Mevlut?
Moi, il y a un but dont tu n'as pas encore parlé. C'est un but en Coupe de France face à Quevilly qui nous qualifie. Un but de la tête.
Ouais.
À Caen, je crois, à l'époque.
C'est ça,
et je pense que c'est peut-être pas ton plus beau, mais c'est un des plus importants dans le contexte parisien de l'époque. Et voilà, ça me semblait important de l'évoquer.
Ouais.
Merci Omar.
Moi, je vais pas retenir un but, tu vois. Pour moi, je regardais tout à l'heure les équipes, les effectifs dans lesquels tu as évolué, et je me dis, ça, c'était les vraies années PSG, quoi. C'est celle où il faut supporter le club, quoi. Là, c'est facile de supporter le PSG. On est premier tout le temps. On parle de problèmes de riches. Enfin, tes générations sont quand même beaucoup plus compliquées. Je crois que vous faites 13e la première 13e. Année où tu es là.
13e.
Mais Coupe de France, Victor.
Mais on se sauve.
Ça aussi, c'est des vraies années, quoi.
Ça aussi, c'est une.
Mais ça nous sauve.
Ouais.
Mais sinon, tu finis pas 13e. On avait honte. Hein.
Ouais.
Et surtout, je pense qu'il fallait des gens comme Mevlut à l'époque à ce PSG-là, des gens qui trichent pas, des gens authentiques, entre guillemets. Non pas que les gens d'aujourd'hui soient différents, mais vraiment par rapport à l'époque, ça correspondait. Et moi, je trouve qu'en Turquie, on a comme une sorte de proverbe qui dit. Tu vas pas devenir ou chanteur ou footballeur. Eh bah, Dieu merci, Mevlut est devenu footballeur.
Oh, c'est pas, il chante peut-être.
Je m'étais noté quand même, un autre but, Mevlut, parce qu'il n'y en a eu qu'un, mais au combien important, face à l'Olympique de Marseille dans un classique que vous remportez. Novembre 2010. C'est particulier, ça aussi, de marquer
c'est
dans le classique.
C'est particulier aussi. C'est particulier parce que moi, je commençais à comprendre l'importance de ces matchs. Et puis. J'ai marqué à ce classique, voilà, c'est quelque chose d'incroyable. Hein.
Il y a une constante, un grand Steve Mandanda sur l'action quand même.
Exactement.
Je crois que c'est ballon, oui, ballon qu'à fouiller.
C'est sans centre de Néné, je crois, il la relâche et tu frappes de Néné derrière.
Alors c'est intéressant parce que ce classique-là, le PSG le remporte 2-1 avec Guillaume Moiro. Et c'est vrai que quand on dit Mevlut Erding, il y a Guillaume Moiro qui va avec.
C'est vrai.
C'était un sacré duo.
C'est vrai, on était complémentaires. J'étais arrivé après lui, c'était pour jouer ensemble en attaque. Et puis on a joué un petit bout de temps ensemble, donc c'était sympa.
Quel est le joueur qui t'a le plus marqué au PSG? Alors, soit par son talent, soit par sa personnalité, son charisme.
Ouais, il y en a quelques-uns. Il y a Pastore qui m'a impressionné par son talent. Il y a Ibrahimovic qui m'a impressionné après.
Mm-hmm.
Parce que ce qu'il a fait, c'est incroyable. Après, pendant ma période, qui c'est qui m'a impressionné?
T'as joué avec Makelele, Mamadou Sakho, Néné.
Il y avait Néné qui était très fort, Ludo qui était.
Il avait une super équipe. Il a fait pas mal de passes D.
C'est vrai.
Il aimait bien de faire marquer.
Il y a Claude Makelele, Clément Chandon, Ludovic Juli, Guillaume Moir.
Il y avait une super équipe de copains. Vrai que c'était un petit peu le renouveau après des saisons
des années
compliquées
sombres.
Où le PSG a joué le maintien. QSI est arrivé. Tu nous as reparlé de cette anecdote, c'est un petit peu dingue. Le match de Toulouse que tu ne dois pas jouer, que tu joues, but, passe D. Leonardo te conserve, tu devais partir. Tu fais 6 mois en plus et derrière, tu ne joues pas beaucoup. Est-ce que tu les regrettes, ces 6 mois en plus que tu as fait avec le PSG QSI?
Non. Je regrette de ne pas être resté plus longtemps.
Ouais.
Honnêtement, ouais.
Tu sens que c'est entre guillemets terminé quand le Qatar arrive,
bien sûr.
Fait ton temps avec le Paris Saint-Germain.
Oui, voilà. Après, je dérangeais pas dans le club, j'étais bien. Ouais.
C'est le moment où
on remis à la porte.
Hein. Ouais, non, mais encore heureux. Mais
oui,
c'est quoi le discours à ce moment-là de la part des dirigeants, de Leonardo?
Il y a pas de discours. Hein. C'est les transferts parlent d'eux-mêmes.
Ouais.
Hein. C'est, on voit les résultats, on voit les transferts qui arrivent, on voit l'ambition du club.
Mmh.
Et puis moi, je comprends tout de suite. Donc quand il y a Ibrahimovic qui va arriver, je sais que...
Ibrahimovic, il arrive après. Ouais. Toi, il y a Jérémy, donc ton pote qui arrive, Kevin Gamero, bon, et Javier Pastore sur la ligne offensive. C'est toi-même, tu sens que...
Ouais, on sent direct, en fait. On sent direct que ça passe à une autre dimension. Hein. C'est un autre, c'est limite un autre club. Hein.
Ouais. Déjà, tu vires Comboiré un soir de victoire à Saint-Étienne.
C'est clair.
But de la tête de Bonnemer, j'étais au stade. Ouais. Et pour prendre Ancelotti, donc déjà là, tu
comprends
que...
leader, hein, je crois, à la trêve.
Et on vire Comboiré sur une victoire.
Bon, on va pas cracher sur Ancelotti.
Ah non, moi je crache pas sur Ancelotti.
C'est un sujet intéressant parce que c'est vrai que quand le Qatar est arrivé, il y a eu des joueurs comme Mevlut, un coach comme Antoine Comboiré, qui n'ont pas duré très longtemps. On se faisait la liste tout à l'heure des joueurs qui ont réussi à exister entre les deux périodes. Il y en a très peu. Christophe, est-ce que vous le regrettez, ça, que des joueurs, des entraîneurs comme Mevlut, comme Boiré, aient été évincés rapidement?
Bah moi, ce qui m'a un petit peu manqué dans les premières années QSI, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure pour parler de Mevlut, c'est vraiment genre, tu vois, les mecs qui aiment le maillot, ouais, quoi, et qui aiment le club. Il y a eu beaucoup de mercenaires, mm-hmm, on a eu des super belles équipes avec des stars et tout, mais enfin, quand tu es supporter du PSG, à la base, les vrais de vrais, tu vois, mm-hmm, nous, ce qu'on veut, c'est des gars qui sont prêts à saigner sur le terrain, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'aimais aussi à l'époque de sa génération, où, enfin, quand tu t'appelles OM, t'étais vraiment content. Aujourd'hui, c'est normal, quoi.
Tu vois, qu'il y avait un lien particulier avec Mevlut, on va pas se mentir. Quand tu vois que Mevlut va quitter le Paris Saint-Germain, tu ressens quoi?
Forcément, j'ai un peu de peine, mais quelque part, à l'époque, tu te dis, ça peut pas être autrement, parce qu'il y a un changement de dimension, et on parle pas de petits changements, on parle de changements complets dans toutes les strates du club. Donc tu te dis, bon, ça doit se passer comme ça. Mais c'est vrai que s'il avait pu rester un peu plus, j'aurais été
premier. J'ai ressenti à l'époque, quand même, du côté des supporters, mais Mevlut, je sais pas si toi tu l'as ressenti, qu'il y avait cette volonté de te voir rester. Mmh. Alors peut-être finalement, comme ça s'est passé, 6 mois de plus pour voir ce que ça allait donner, mais au moins tenter le truc.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Moi j'ai pensé pareil aussi. Hein. Je me suis dit, bon, tu marques, tu fais une passe d'aise, tu peux partir, tu peux quand même partir. Si je forçais, je partais.
Mais ils m'ont dit, et si tu fais pas ce match à Toulouse, tu pars à Rennes.
Ouais, je pars à Rennes, ouais. J'étais sûr.
Ouais, ouais, c'est une drôle
mais
histoire.
Mais il y a un élément qui est intéressant par rapport à Mevlut, c'est que ça s'est fait. Il a plein de petits moments marquants, mais surtout quand il revient même au parc aujourd'hui, enfin, je pense qu'il confirmera, les gens se souviennent de lui, ils vont lui dire merci, ils vont être... ils vont aller vers lui et ils sont heureux de le voir à chaque fois.
C'est vrai que tu avais une belle relation avec les supporters du PSG.
Ouais, c'est vrai, franchement.
Bah, quand t'es authentique, hein, je pense que
c'est ça.
Quand tu triches pas, c'est le plus important. Ouais. Je crois que c'est ça.
Un peu comme Guillaume Haro aussi. Hein.
Exact, voilà, naturel.
T'as un petit mot, un petit message pour les supporters du PSG?
Bah, soyez patients. ça va arriver, on va la gagner un jour.
C'est important. Comment tu juges justement l'évolution du club, alors justement avec l'arrivée de QSI depuis une dizaine d'années?
Moi j'ai beaucoup aimé la période où il y avait Ibrahimovic, la vérité. Ouais. Je croyais qu'on était pas loin de...
Il a redimensionné ce club.
Ça m'a impressionné.
Je peux vous dire que des matchs contre Lens au Parc, on se demandait pas, on se disait juste combien on va en mettre.
Ouais, le match du samedi 17h21h, c'était le 4 ou 5-0.
Ouais, ça envoyait.
Ouais. De la patience, est-ce que tu penses que ce PSG-là va arriver à toucher le Graal?
Moi, je pense qu'ils ont le meilleur coach pour ça.
La Ligue des Champions.
Ouais.
Ils vont le faire.
Ouais, je pense, ouais. Il faut rester sur ce projet, il faut être patient, il faut faire confiance au coach. Moi, je pense. Hein. C'est ce qu'il fait, il est pas bête, hein, le coach. Hein.
Tu nous as parlé de ta reconversion tout à l'heure, Mevlut, tu travailles dans une structure pour conseiller les joueurs. Est-ce que tu aimerais, un jour, revenir au Paris Saint-Germain? Quel que soit staff, encadrement, direction sportive?
Ouais, franchement, ouais.
Ouais.
Je rêverais, ouais. Bien sûr, c'est pas seulement un club, c'est un club qui a une âme, quoi.
Ouais. Une institution.
Bien sûr.
Puis là, aujourd'hui, c'est même plus un club, c'est une entreprise.
On a eu le chiffre des bénéfices qui est tombé ce matin.
Bon. C'est vrai, ouais.
Ils sont valorisés quasiment à 4 milliards, là, maintenant.
C'est ça.
On parle d'un vrai club, quoi.
Dernière petite question, Mevlut, on entend beaucoup parler d'un déménagement du Paris Saint-Germain du Parc des Princes. Je pense connaître la réponse, mais est-ce que tu imagines le PSG sans le Parc des Princes?
Non.
Je pense que ça fera consensus autour de cette table. Oui, le PSG, c'est le Parc des Princes, c'est le Parc des Princes, c'est le PSG.
Exactement.
Franchement, ce serait pas génial quand même, un derby, tu vas à Jean-Bouin? T'as juste à sortir.
Je pense qu'on a encore un peu de marge, honnêtement.
Pour l'imaginer.
Exactement, trop d'histoire, trop de souvenirs pour avoir regardé les matchs. Ouais. L'époque de Rai, tout ça, tu te rends compte? C'est ce PSG-là.
Le calendrier, messieurs, donc on en a pas mal parlé. PSG, Atlético de Madrid, mercredi, et puis Angers. PSG, ce sera samedi. C'était passionnant, Mevlut. On va regarder les résultats du week-end. L'Omnisport, les clubs franciliens. Le tout résumé par Clément Cression, et on se retrouve juste après.
Le Racing 92 retrouve des couleurs. Belle victoire des Franciliens en déplacement à Pau, 33-23, malgré la blessure de la star anglaise Owen Farrell en début de rencontre. Remplacé avec brio par Antoine Gibert, auteur de deux passes décisives. En revanche, soirée bien plus maussade pour le Stade français qui s'est fait étriller sur le terrain de La Rochelle. Défaite 35 à 18 pour des Parisiens englués à l'avant-dernière place au classement. Après deux journées de rolling fructueuse, le Paris Basket a poursuivi sur sa lancée face à Nancy. Large victoire 115 à 97, portée par le trio Ifi, Malcolm et Lowe, avec 22, 19 et 18 points, les Parisiens n'ont jamais vraiment été en danger dans cette rencontre. Le PSG Handball est toujours invaincu en championnat. Face à Montpellier, concurrent direct pour le titre, les Parisiens l'ont emporté 29 à 23. Tout s'est joué en deuxième période. Avec une prestation défensive de haut vol, les coéquipiers de Lucas Karabatic n'ont encaissé que 8 buts. Paris reste leader, 2 points d'avance seulement sur son dauphin nantais. Le dernier roi de Bercy n'est pas français. Les rêves de Hugo Humbert se sont heurtés à la réalité d'Alexander Zverev. L'Allemand n'a pas laissé l'ombre d'un espoir à son adversaire. Victoire 6-2, 6-2 pour le numéro 3 mondial qui s'adjuge son 7e et dernier arbre de Fenty, trophée du tournoi de Paris-Bercy.
Comme Paris, c'est déjà fini. Immense merci, Mevlut Erding. Vraiment merci. C'était passionnant. Tu reviens quand tu veux sur le plateau de Paris. T'es le bienvenu. Merci également à Omar, notre castor du soir.
Merci à vous tous.
Et à Romuald Bernardi.
Merci.
Jordan Le Sueur également. Merci à toi. L'édition est dans l'oreillette. Je vous rappelle que Cop Paris est disponible en replay et en podcast sur l'appli RMC BFM Play, sur le site web de BFM Paris et sur le TikTok de l'émission. Très belle semaine à tous. À lundi prochain dans Cop Paris. Ciao, ciao.